trouverons là. Une nouvelle chronique sur Radio FM Plus 91, animée par Ilem Gouli, à la technique William Balfour. Une chronique d'information et d'actualité. Nous vous donnons la parole pour mieux connaître vos actions, vos idées et vos propositions. Une chronique soutenue par la Fondation Les Sourires d'Ahmed et le CLIX 34, le Comité de laïcité et de cohésion sociale. Aujourd'hui, nous avons comme invitée Madame Anne Fraisse. Qui est Anne Fraisse? Anne Fraisse est née en 1959 à Montpellier. C'est une latiniste et universitaire française. Après 10 ans comme agrégée de lettres classiques dans le secondaire, elle intègre l'université Paul Valéry comme maître de conférences puis professeur de patristique latine. 2 mandats de présidente à l'université Paul Valéry de Montpellier de 2008 à 2016 et réélue pour 4 ans en 2020. Elle a été par ailleurs vice-présidente de la conférence des présidents d'université de décembre 2010 à décembre 2012. Ses distinctions, chevalier de la Légion d'honneur en 2010, commandeur de l'ordre des Palmes académiques en 2015. Alors pendant ses mandats présidentiels, elle a piloté le projet Opération Campus avec 2 autres universités de Montpellier. Anne Fraisse, on la connaît pour ses coups de gueule, elle s'oppose à la loi LRU. Elle est redoutée effectivement pour ses coups de gueule, mais aussi respectée pour assumer ses positions de gauche. Dans le monde du lot universitaire, adepte de la langue de bois, Anne Fraisse n'aura pas été une présidente comme les autres. Les 8 premières années de pouvoir, la présidente Paul Valéry aura tenu tête à Georges Frêche sur la fusion, claquer la porte du concours IDEX de Nicolas Sarkozy et enfin à résister à la politique tout aussi libérale de François Hollande qui lui conseillait de sacrifier la fac de Béziers ou de détruire les postes pour équilibrer son budget grévé par la baisse des dotations de l'État. Elle participe en tant que présidente de l'université au projet des fusions des 3 universités montpelliéraines et estimant que les sciences humaines et sociales n'étaient pas suffisamment représentées dans le projet favorable aux communautés d'universités et d'établissements, ce qu'on appelle le COMU, qu'à la fusion. Elle veut reconnecter sur le site Saint-Charles à la formation de l'enseignement avec la recherche. Bonjour Madame Fraisse.
Bonjour.
Alors, l'introduction que nous venons de faire, donc 3 mandats à l'université Paul Valéry, peut-être un 4e, nous verrons ça plus tard. Quels sont vos points forts de ces mandats et on va peut-être aussi parler des projets qui vous ont le plus marqué, peut-être les projets que vous attendez, pour lesquels vous tentez en tout cas de les promouvoir, vos attentes.
Les points forts. Je ne sais pas, de toute façon, je crois que ces mandats ont été marqués toujours par la défense du service public, qui est pour moi une valeur forte, qui est un peu le fil conducteur de ces mandats. Après, il y a eu un certain nombre de réussites, en particulier, je pense à ce qu'on a gagné avec, à l'époque, les 2 autres universités, le CROUS, l'école de chimie et Supagro à l'époque, c'est-à-dire l'opération Campus, qui vient de déboucher pour nous, après 16 ans quand même. Hein. J'ai signé en 2008, dossier de l'opération Campus, et là, on vient de nous livrer Atrium, c'est-à-dire un immense learning center, une bibliothèque dernière génération de 15 000 m², qui est magnifique. Et l'intérieur est encore plus beau que l'extérieur et qui va faire passer nos étudiants dans un autre siècle en matière de documentation et de travail. Voilà. Et là, on est pour l'instant dans le déménagement des 700 000 ouvrages.
Ouvrages ou documents. Comment ces navettes, elles passent comment alors?
C'est un déménageur spécialisé et qui amène les ouvrages de notre ancienne bibliothèque qui est au cœur du campus vers l'atrium, avec la grande difficulté supplémentaire que la nouvelle bibliothèque, c'est une nouvelle façon de concevoir la documentation, c'est-à-dire qu'alors que dans l'ancienne bibliothèque, 1/3 des ouvrages étaient en libre accès et 2/3 dans les magasins, donc demander que quelqu'un aille chercher l'ouvrage pour l'apporter à celui qui en avait besoin. D'accord. Là, maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que 2/3 des ouvrages sont en libre accès dans d'immenses plateformes, et 1/3 simplement, les fonds précieux ou qui sortent peu, sont dans les compactus de la réserve.
D'accord. Voilà. Et du coup, il y a toute une nouvelle codification, il y a un travail tout à fait, administratif, voilà, tout à fait, l'ISBN va aussi...
Tout cela a été fait avant par notre propre personnel, et là, les déménageurs prennent les ouvrages pour les amener sur la bonne étagère dans la nouvelle bibliothèque. On en a pour 4 mois de déménagement.
4 mois de déménagement, voilà, pour nos chers étudiants. Et combien d'étudiants alors dans cette université?
Alors dans cette université...
Et pour cette bibliothèque, en gros, comment ça se passe? C'est des gens qui s'inscrivent, vous les avez potentiellement dans un fichier ou...
Alors notre université comporte 23 000 étudiants, mais une bibliothèque universitaire d'abord est ouverte à tous les étudiants du site, c'est-à-dire non seulement ceux de notre université, mais également de l'université de Montpellier, c'est-à-dire qu'il y a un mélange. Mm-hmm. Tout étudiant a le droit d'aller dans toutes les bibliothèques universitaires de Montpellier. Et ce que les gens savent moins, c'est qu'une bibliothèque universitaire, c'est une bibliothèque de service public, donc elle est ouverte à tous.
Ah oui,
donc alors, ça n'intéresse pas obligatoirement tout le monde. On a un fonds, bien sûr, qui est un fonds universitaire. Mais n'importe qui peut venir à la bibliothèque, tout à fait.
C'est-à-dire que là, mes collègues de la radio, ou
tout à fait,
on pourrait venir s'intéresser, donc,
bien sûr,
dans cette bibliothèque.
Et travailler sur les lieux.
Non, bah, c'est superbe. On l'a à diffuser. Hein. Il y a aussi autre chose. Alors ça, c'est un point au niveau point d'égalité. Vous marquez un grand point. Qu'est-ce qu'il y a encore qui suit, justement, on parle d'égalité aujourd'hui beaucoup, égalité à travers les mobilités, égalité, là, pour vous, ça va être aussi l'accès à tous ces livres. Quels sont les projets qui touchent... quelles sont votre politique aussi? Quelle est votre... Enfin, politique, c'est un grand mot, hein, mais vos axes de travail en termes d'égalité vos étudiants.
Là, pour l'instant, le gros problème qu'on a, c'est un problème de budget
oui,
récurrent.
Oui,
c'est là où réclamer une égalité de traitement entre les étudiants est important. Autant, effectivement, comme on vient de le voir, sur le plan des bâtiments et sur le plan du superbe campus que nous avons, parce qu'on a un campus absolument magnifique.
Combien de mètres carrés?
N'est pas très grand, non. Celui de la route de Mende est un petit campus, mais par contre, c'est un campus qui est labellisé patrimoine du XXe siècle, qui est un superbe jardin et qui est un campus marqué par la culture. On a des œuvres d'art, y compris d'ailleurs à l'extérieur, puisque le portail de l'université est un portail Vassarelli, donc d'un grand artiste, et oui, il vient d'être d'ailleurs, dans le cadre de l'opération Campus, rénové et remis. Il avait été enlevé, plusieurs tonnes de métal quand même, qui ont été enlevées, remis en état et réinstallées. Donc on va réinaugurer, si j'ose dire.
Pour quand? Voilà. Ça, c'est des petites...
Pour bientôt, peut-être en même temps que l'arrivée du Poséidon. Vous savez que le maire de Montpellier a donné gracieusement à l'université, enfin en tout cas installé gracieusement dans le musée des moulages de l'université.
On est au courant parce qu'on
voilà, le Poséidon qui avait été enlevé, enfin, voilà, qui était en extérieur et qui était abîmé, il l'a fait restaurer. Il est maintenant, voilà. Il a eu beaucoup de difficultés à rentrer, donc il ne sortira plus.
Il ne sortira plus, donc le Poséidon. Voilà. Mais en parlant de culture, finalement, la fac, enfin, l'université Paul Valéry a aussi pas mal de points assez éminents.
Tout à fait. On a un certain nombre de particuliers en équipement. On a des équipements culturels de très haut niveau et très rares en France. Le musée des moulages, par exemple, c'est un musée qui est unique. Le musée des moulages, c'était la façon dont on enseignait autrefois l'histoire de l'art et l'archéologie, et aussi d'ailleurs les arts, hein, le dessin, avec des statues en plâtre, avec des photographies des monuments. C'était la façon d'enseigner à la fin du 19e et au début du 20e ces disciplines-là. Et il y avait donc 5 chaires d'histoire de l'art, dont une à Montpellier, puisqu'il ne faut pas oublier que, comme la médecine et le droit, on est une université qui date du Moyen-Âge.
Qui date du Moyen-Âge, tout à fait.
Tout à fait. La faculté des arts, qui est devenue l'université des lettres, date du Moyen-Âge, comme les autres faculté de Montpellier. Et donc, depuis la fin du 19e, ce musée des moulages servait à l'enseignement de l'histoire de l'art. Et avec la démocratisation, quand il y a eu de moins en moins de place, eh bien, les 4 autres universités qui avaient des musées des moulages les ont remplacées par des étudiants, et donc ont mis leur statut soit dans des caves, soit les ont donnés à des musées, par exemple. Et donc, nous sommes la seule université qui a gardé ce musée des moulages en activité et qui est tout encore le temps, en activité.
Et voilà. Qui est tout le temps, non seulement tout en activité, mais il y a tout le temps des événements. Je vois
exactement,
tout le temps passer des choses.
Exactement, c'est un vrai musée qui fonctionne, en particulier en partenariat avec le Louvre, avec des prêts. Et donc, c'est tout à fait remarquable pour nos étudiants. Et le deuxième très grand équipement que nous avons, c'est bien sûr notre théâtre. Alors, non seulement le lieu, bien sûr, on a un théâtre qui est intégré dans l'université, mais on est la seule université à avoir une scène conventionnée. La vignette, donc c'est un vrai théâtre. Voilà, on accueille des étudiants en résidence, il y a une programmation, et ça c'est un plus incontestable pour nos étudiants.
D'accord, c'est la vie aussi au campus, mais aussi ceux qui vivent, parce qu'il y a le Crous, il y a plusieurs...
Oui, tout à fait, et c'est ça qui est à la fois ce qui fait les caractéristiques remarquables de l'université, et c'est d'autant plus regrettable que, justement, on soit aussi l'université la moins dotée de France.
Mais c'est là la frustration.
Et notre sujet, c'est tout à fait, c'est tout à fait frustrant, parce qu'en même temps, on a de très grandes réussites, un magnifique campus, des choses qui progressent vraiment, puisqu'on a gagné, là, très récemment, un projet qui est ce qu'on appelle un PIA, qui est...
Oui, je l'ai vu passer. Alors,
voilà, PIA, Miranda. Alors, c'est... Et qui est le seul projet de recherche en sciences humaines, dans ce cadre des PIA d'excellence, c'est-à-dire des projets, il y a une quarantaine de projets, et c'est le seul dans nos disciplines. Voilà, donc c'est pour nous une très grande victoire d'avoir pu obtenir ce programme-là. Donc, je dirais, tout roule pour l'université, sauf notre budget. Et c'est vrai que découvrir qu'on est... Alors, on le savait, qu'on était dans les derniers, mais là, découvrir que sur le plan du budget, par étudiant, on est les plus mal dotés et les sous-encadrés massivement. On est à la fois l'université la moins dotée, mais aussi la moins encadrée, à la fois en enseignants et en chercheurs et BIADS. Donc personnel administratif, on fait une sorte de grand écart entre tous les projets qu'on a, la qualité de l'université, et puis un budget au quotidien qui ne suit pas.
Mais ça serait dû à quoi, à votre avis ? Pourquoi ce...
Alors, vous savez, il y a plusieurs origines.
Moi, j'ai une idée, mais alors, je préfère
il y a une que... Il y a une origine ancienne qui est celle de la façon dont on évaluait en coût, je dirais, les étudiants de lettres et sciences humaines par rapport aux étudiants de sciences. C'est ce qu'on appelait autrefois les normes San Remo, c'est-à-dire que l'État donnait moins d'argent pour un étudiant de lettres et sciences humaines que pour un étudiant de sciences, et encore moins, bien sûr, que pour un étudiant de grande école, par exemple. Voilà. Donc, cette différence a, évidemment, à creuser, c'est une différence historique. En principe, les normes San Remo n'existent plus, mais il n'empêche que la dotation pour charges de service public est toujours calculée sur ces normes-là, puisque de toute façon, rien ne les a remplacées, ces normes, et rien n'a permis un rattrapage. Or, la différence a continué à croître, alors que les lettres et sciences humaines, les techniques ont changé. Je veux dire, peut-être qu'à l'époque, on s'imaginait qu'un étudiant de lettres, il avait besoin d'une feuille, d'un crayon, d'un dictionnaire, que on pouvait entasser les étudiants de droit ou d'économie ou dans des amphis et que c'était comme ça qu'ils apprenaient. Maintenant, moi, j'ai des étudiants d'art plastique qui travaillent avec des logiciels très coûteux. Les étudiants de géographie, c'est encore pire. Voilà, donc on n'est pas du tout dans des études qui ne coûtent pas cher, en tout cas pas dans les proportions qui sont encore celles appliquées.
Donc il y a un manque d'adéquation entre la réalité et entre...
Nos étudiants, par exemple, de psychologues, on les envoie sur le campus de sciences pour apprendre aussi, enfin pour travailler avec les scientifiques sur ce qu'est le cerveau, faire des expériences de chimie. Et nous, on a pour eux infiniment moins d'argent que de l'autre côté de la rue, ce qui est une injustice totale. Et surtout, l'injustice la plus grande, c'est celle qui, dans les mêmes disciplines, fait qu'il y ait des écarts.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est actuellement 8 universités uniquement lettres et sciences humaines, et la dotation par étudiant n'est pas la même. Que vous enseignez à Montpellier, à Bordeaux ou à Paris, enfin que vous fassiez vos études à Montpellier, à Bordeaux ou à Paris, eh bien l'État ne donne pas à l'université la même somme. Et ça, c'est d'une injustice totale pour nos étudiants.
Ah oui, c'est une information qui est importante. Ce que vous venez de dire, est-ce que c'est aussi quand j'ai repris des articles où effectivement vous tentez en tout cas d'apporter des arguments à la question des sciences humaines, si elles survivront-elles ou pas à l'autonomie des universités. Vous faites référence aussi à ce genre d'inégalité.
Tout à fait, bien sûr, c'est toujours le même problème.
Toujours le même problème.
Voilà, qui fait que les universités de lettres et sciences humaines, et aussi celles d'ailleurs d'économie, droit, gestion, quand elles sont restées uniquement dans ces périmètres-là, c'est les universités qui sont les plus mal dotées de France, oui, qui sont en bas de tableau. Ça, c'est d'une façon très générale. Et puis ensuite, il y a une deuxième attaque, peut-être plus récente, parce qu'elle est liée, effectivement, pour moi, à la loi de l'autonomie des universités.
Oui, c'est pour ça que j'engage cette...
tout à fait. Parce que là, on a une véritable attaque du service public. C'est-à-dire que, petit à petit, l'État se désengage. Comme d'ailleurs, il s'est désengagé dans le service public de la santé ou de l'éducation dans le primaire et dans le secondaire.
Secondaire surtout aussi.
Voilà. Et ça, ce problème-là, si vous voulez, je pense que les Français s'en rendent compte, commencent à s'en rendre compte sur un certain nombre de sujets, mais pas toujours. Vous savez, il y a toujours quand même ce préjugé sur les fonctionnaires. Hein. Les fonctionnaires, c'est des nantis. Et en fait, le service public, selon moi, ce n'est pas ça. Le service public, c'est la nation qui s'engage sur un certain nombre de missions qu'elle juge essentielles et qu'elle doit assumer, elle, au nom de l'égalité et de la fraternité. Voilà. C'est quand même des valeurs très fortes de notre démocratie. Et c'est cela qui est attaqué quand on s'attaque au service public. Le service public, c'est quand l'État dit l'éducation des jeunes, c'est moi que ça concerne. C'est l'ensemble des Français. C'est l'ensemble des Français qui doivent assumer la formation de la jeunesse comme, par solidarité, l'ensemble des Français, par leurs impôts, assument la santé. Voilà. Et à partir du moment où vous attaquez ce service public-là, vous attaquez ce qui est l'essentiel de l'égalité dans une démocratie.
Parce que vous primez sur l'égalité, vous tentez de contribuer au maximum, parce qu'en parlant de service public, vous regardez également aussi les trois autres axes, liberté, égalité, fraternité, mais surtout tout l'égalité des services au niveau des universités de leur contribution.
Voilà. Sinon, vous faites des deux niveaux. C'est-à-dire, vous faites ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas.
C'est un peu comme le système capitaliste qui va plus vers les États-Unis, puisque les universités sont
Tout à fait.
Je ne voudrais pas trop titiller sur cette question,
c'est effectivement ça, ce qu'on entend. On voit très bien ce qu'on entend, par exemple, sur la loi sur l'immigration.
Sans être contre le capitalisme,
sur la loi sur l'immigration, on commence par les étudiants étrangers, en disant qu'il faut qu'ils payent plus, et ensuite, ce qu'on commence à entendre, c'est eh bien chacun doit contribuer à sa propre formation. Il faut donc faire payer davantage les étudiants pour leur formation. Eh bien ça, c'est une attaque contre le service public, parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui peuvent payer pour les études de leurs enfants, et il y en a qui ne peuvent pas.
Qui ne pourront pas même.
Voilà,
oui.
Qui ne peuvent pas. Et donc, on lamine ce qui est justement un des fondements, à mon avis, de la démocratie, en ce sens.
Vous pensez que ce quota touche les faibles, en gros ?
Bien sûr, c'est une évidence. Mm. C'est une évidence. C'est-à-dire, pour moi, on va à l'envers. On repart en arrière sur des choses qui étaient des acquis forts d'une démocratie française. Mmh. Moi, je tiens énormément au service public. Je pense que c'est à l'État, effectivement, à assurer ses missions fondamentales.
D'accord.
Et former la jeunesse, c'est une mission qui relève de l'ensemble de la nation, mmh, et qui doit être prise en charge par l'État, c'est-à-dire en fait par l'impôt des Français, qui tous ensemble contribuent à la formation de la jeunesse. Et pour moi, c'est une valeur extrêmement forte. Et je me suis battue, oui, et je continuerai à me battre pour qu'on garde cette valeur du service public auquel je suis extrêmement attachée.
Ce que je comprends tout à fait, l'avocat du diable vous dira aussi que il y a des faiblesses dans toutes les dans les autres ministères. Vous avez vu, on a parlé de la santé. Où est-ce qu'on va puiser ? On va le puiser chez les Français. Mais d'autres de vos confrères, qui d'ailleurs n'ont pas été nominés peut-être pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas faisaient partie du palmarès lors du troisième mandat, qui s'étaient présentés, qui eux demandaient même à chercher les fonds ailleurs, quitte à aller toquer aux fondations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me dérange un peu, mais qu'est-ce que vous avouez ?
Moi, je crois que je vous parlerai de la troisième partie de liberté, égalité et fraternité. Parce qu'une des grandes caractéristiques de l'université, c'est, pour les enseignants-chercheurs, ils sont extrêmement attachés, c'est leur liberté de parole, mm-hmm, leur liberté de dire ce qu'ils... Et je lisais dans un journal là, récemment, que les universités américaines, qui maintenant dépendent à la fois de la dette que les étudiants font pour faire leurs études, mais également des bienfaiteurs, de ceux qui leur donnent de l'argent, mm-hmm, de tous les donateurs, eh bien les donateurs, maintenant, exige d'avoir leur mot à dire sur la politique et sur la liberté d'expression des universités. Après, il faut savoir ce qu'on veut, ce que la France veut pour sa jeunesse. Est-ce que c'est se faire dicter sa parole par ceux qui donneraient pour l'université ? Et on peut comprendre, si vous voulez, dans cette logique-là, à partir du moment où vous donnez, vous attendez quelque chose en échange. Et ce quelque chose, est-ce que... Voilà, c'est
alors
un bien
c'est pour
précieux.
Ça que pour vous, tout ce que vous dites légitime totalement votre défense, effectivement, au service public, puisque finalement, ce que vous demandez, certes, une dotation beaucoup plus importante pour pouvoir recouvrir déjà les budgets des projets de l'université, mais aussi l'autonomie des universités. Et passe aussi par
tout
là.
Tout à parce fait. Que... Est-ce que vous croyez que la formation des jeunes doit dépendre des éventuelles dotations de gens qui veulent donner, ou non d'ailleurs, parce que ce n'est pas trop dans les habitudes en France,
non,
qui vont donner aux universités. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sélectionner les disciplines utiles.
Ah oui, celles, parce qu'au fur et à
voilà,
mesure, on donnera
en fonction ce qu'on juge utile dans les formations. Vous savez, moi, quand je dis que je suis professeur de latin, indépendamment de ma présidence, ce qui revient le plus souvent, c'est à quoi ça sert ? Voilà, à quoi ça sert ? Ma discipline n'existerait plus si on était dans ce genre
de figure,
même si ça sert à beaucoup de choses, le latin. Mais, vous voyez... Ça ne sera pas considéré, par exemple, comme une formation directement utile. C'est aussi des choses qu'on entend beaucoup, mm-hmm, actuellement. Mm-hmm. Il faut arriver à faire une adéquation entre les études et ce dont a besoin l'économie française maintenant, tout de suite. C'est un discours dangereux. Non pas que l'université vive en dehors de tout environnement, et bien sûr qu'elle doit s'adapter aux nouveaux métiers, qu'elle doit aller dans ce sens, mais pas que.
pas que...
Pas que, on a une formation qui est au-delà de la simple adéquation à un métier. D'abord, tout simplement parce qu'on sait que les jeunes qu'on forme maintenant, ils ne feront peut-être pas, comme nous, le même métier tout au long de leur vie. Mm-hmm. Donc, ils doivent apprendre aussi à savoir faire, à savoir s'adapter, à savoir changer. C'est eux qui vont créer les métiers de demain.
Tout à fait. Ouais. Et puis, justement, en parlant de... Alors, on a parlé nationalement. Et au niveau international, comment brille l'université Paul Valéry? Comment elle rayonne en tous les cas? Est-ce que vous êtes aidé par la ville de Montpellier? Parce qu'aussi, ils ont un grand service de l'international. Ou est-ce que c'est vraiment chose à part et, ou alors, c'est des choses que vous, dans vos attentes, vous auriez aimé ou...
Alors, on a de toute façon beaucoup d'étudiants et étrangers, puisque la proportion pour nous, c'est à peu près un étudiant sur cinq à peu près, est un étudiant étranger chez nous. En particulier, plus on avance dans le cursus, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de doctorants.
D'accord. Et c'est des hauts niveaux.
Voilà, ouais. Voilà. Plus les niveaux avancent, plus le nombre d'étudiants étrangers en général augmente. Alors il y a différents types d'étudiants étrangers. Il y a ceux qui viennent par contrat, donc d'université à université, et puis il y a ceux qui arrivent librement en inscription. Et c'est un peu cela que l'État veut nous faire passer pour des migrants.
Alors cela, alors cela, vous pouvez nous en parler. Alors du coup, cela vient par visa ou comment ils peuvent? C'est quoi? C'est une inscription sur Internet
depuis leur domicile chez eux.
Comment?
Oui, donc ils doivent s'inscrire. C'est très compliqué. Il y a énormément de demandes et il y a très peu d'étudiants par rapport au nombre qui demandent, qui arrivent.
Mais il faut quelqu'un ici qui les accueille ou comment?
De toute façon, ça passe effectivement par des visas dans leur pays. Et après, effectivement, il faut aussi qu'ils soient acceptés, que leur dossier soit accepté dans l'université qui va les recevoir. Donc c'est un vrai parcours du combattant.
J'imagine la Colombie, le Maroc,
oui,
le Congo, l'Éthiopie.
Toutes les parties du monde.
L'Italie peut-être.
Oui, l'Italie, les États-Unis.
Allez, le Mexique, on va plus loin, le Brésil. Vous avez aussi des notes que vous regardez, celui-là peut-être 19 et l'autre il
bien
a
sûr,
17,
bien sûr.
On va prendre celui qui a 19. Comment ça
Bien sûr.
C'est les notations, les compétences.
Il ne faut pas croire qu'ils arrivent juste parce qu'ils demandent à rentrer. Bien sûr, ils sont besoin d'avoir des moyennes très hautes, puisqu'on ne peut pas prendre tout le monde, et forcément ils sont sélectionnés sur leurs résultats scolaires.
Donc on a quasiment les meilleurs de la planète, peut-être dans notre université,
oui,
en tout cas.
Bien sûr, dans ceux qui demandent, bien sûr.
Parce que je sais que nous, sur Strasbourg, c'est pareil. Hein, c'est vraiment, moi j'ai vu des doctorants.
Les dossiers sont très bons.
Ils sont plus que bons. Je dis, mais c'est vraiment des ingénieurs sur ingénieurs qui sont là et qui s'ils restent en plus, s'ils souhaitent rester, parce qu'il y en a beaucoup qui partent sur Londres, parce qu'ils sont souvent comme bilingues, trilingues, même ils parlent plusieurs langues. Sur vos 23 000, vous en accueillez combien, si je puis me permettre
Un sur quatre.
Un sur quatre,
à peu près. Un sur cinq, à peu près.
Même,
alors, bien sûr, ça avait beaucoup baissé pendant le Covid, hein, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de circulation. Mais là, on a repris notre nombre d'étudiants étrangers et ils réussissent. Ils réussissent très bien. Et puis, il y a surtout ceux aussi qui viennent par contrat. De façon, on a par exemple, nous, une antenne.
C'est un travail qui les attend.
C'est des échanges souvent d'université à université.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Okay. Il y a des tas de formes.
Hein,
Des partenariats déjà
voilà,
établis.
Il y a des tas de formes de partenariats. Il y a même parfois, nous, on a une antenne de notre université. En Chine, avec la plus grande université chinoise en lettres et sciences humaines, où on est installé là-bas. Et ensuite, il y a des partenariats avec des tas d'universités. C'est-à-dire que souvent, Parfois, on s'imagine, justement, quand on entend ces lois, on s'imagine mais que c'est une sorte d'immigration, par exemple, qui vient clandestine. C'est presque comme ça qu'on présente nos étudiants, mais ce n'est pas du tout le cas. La dernière convention qu'on vient de signer, c'est avec l'université de Berkeley. Enfin, je veux dire, on n'est pas...
C'est alors les grandes universités,
mais bien sûr.
Dites-nous un peu, faites-nous un peu rêver ce qui c'est. Alors...
Ben, je vous dis, la dernière qu'on est en train de signer, c'est avec Berkeley. Voilà. Pour l'instant, donc, un contrat général qui va être précisé sur des échanges avec des étudiants et tout. Il ne faut pas s'imaginer
Il y a une plus-value quelque part qui est rapportée sur le campus.
Et bien sûr, dans un sens comme dans l'autre. Ces étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs, sont des ambassadeurs de la France dans leur pays. Quand ils y retournent, ils occupent en général des postes élevés. Alors, ce n'est pas parce que certains, vous savez, c'est tout système peut être... perverti ou utilisé. Je pense effectivement qu'il doit y avoir des étudiants qui essayent d'arriver et de rester en France par ces moyens-là. Mais d'abord, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut qu'ils aient un niveau. Il faut qu'ils aient un niveau. Ils ne sont pas sélectionnés. Enfin, ce n'est pas parce qu'on dit... bien sûr, on leur demande un dossier. Il faut qu'ils soient acceptés par l'université. Il faut que leur État les laisse partir, leur accorde un visa. C'est compliqué. Ce n'est pas une voie ouverte comme ça.
Et la loi d'immigration, là, vient frapper très fort sur le quota.
Surtout,
sur quoi, exactement?
Il
y a tellement eu de choses qui sont...
Surtout, c'est l'image, là, on a entendu dû dire que le Sénat, il y a une proposition pour rétablir ce que le Conseil constitutionnel a refusé. C'est surtout des mesures qui sont presque injurieuses vis-à-vis de nos étudiants. On ne peut pas appeler un programme Bienvenue en France et expliquer à nos étudiants étrangers qu'on s'imagine qu'ils viennent pour de mauvaises raisons en France, c'est-à-dire non pas pour faire des études, qu'on va vérifier sans arrêt, année après année, qu'ils sont bien là pour faire des études, alors qu'ils ont été sélectionnés sur dossier par l'université. On ne peut pas leur expliquer qu'il faut qu'ils laissent une caution pour la reprendre quand ils repartiront, parce qu'on a peur qu'ils ne repartent pas. Enfin, c'est quoi ça?
C'est les meilleurs étudiants étrangers qui
viennent chez nous faire leurs études, et qui repartiront et qui seront les meilleurs ambassadeurs de la France et de la francophonie dans leur propre pays, et on les accueille comme ça?
Ça
ne s'appelle pas Bienvenue en France. Je veux dire, à ce moment-là, qu'on change de nom au moins. Parce que là,
pour vous, la francophonie passe aussi par tous ces étudiants aussi,
évidemment.
Hein, parce qu'ils sont
évidemment.
Ils sont
de toute façon, ils sont obligés pour venir faire des études en France de prouver leur niveau de français. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas des étudiants qui ne parlent pas français. Il y a un niveau d'exigence du français pour être sûr qu'ils sont capables de faire leurs études en français. Donc je crois que c'est déjà le B2 dès la première année, et ça monte ensuite. Ça monte ensuite quand c'est master ou doctorat. C'est injurieux de traiter nos étudiants comme s'ils cherchaient à s'infiltrer en France
par le biais des études.
Non, on a des étudiants qui sont des étudiants étrangers qui viennent faire leurs études en France. Voilà.
Et ça, donc ça, c'est très intéressant. Peut-être on va terminer avec deux choses. La formation continue, elle existe aussi au sein de l'université.
Bien sûr, elle est très importante.
On est au-delà du FLE, là. C'est quoi? C'est au niveau de l'orientation? C'est au niveau de
alors, exactement... la formation continue, c'est le fait qu'on peut continuer à se former au-delà de ce qu'on appelle la formation initiale. C'est-à-dire, la formation initiale, c'est quand vous enchaînez, après le bac, directement vos études dans le supérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent en France, puisqu'on a les étudiants les plus jeunes d'Europe. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, en Europe, en Amérique, d'ailleurs en Amérique souvent pour essayer de gagner l'argent qu'il leur faut pour faire leurs études, les étudiants font davantage de va-et-vient entre le monde du travail et l'université, alors qu'en France, on a tendance un petit peu à être dans des parcours beaucoup plus rectilignes. Et donc, les choses qui sont en train de se mettre en place pour essayer d'éviter cela, d'abord, c'est le recours à l'apprentissage dans le cadre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire des parcours qui mêlent à la fois un enseignement pratique dans une entreprise, dans une association, dans un cadre professionnel, et en même temps des études à l'université. Et ensuite, il y a la formation continue. La formation continue, c'est la reprise d'études pour des gens qui sont déjà au travail. Et c'est effectivement très important et c'est développé à l'université, bien sûr, dans nos disciplines comme dans les autres.
Un mot pour nos étudiants, notre jeunesse pour la suite.
Courage.
Courage. Votre proverbe préféré.
Écoutez, je donnerai peut-être pas un proverbe, mais je donnerai ce que j'ai donné comme un peu comme titre à mon université. C'est en latin, Semper dissimilis, toujours différente.
Toujours différente. C'est les derniers mots avec Anne Fraisse. Vous étiez sur Radio FM+. C'est une femme qui ne lâche rien, toujours pour le service public. Une femme qui est prête à tout pour l'égalité, liberté et fraternité. Courage à nos étudiants et merci Anne. Merci Madame Fraisse.
Merci.
Ouvrons-la. Une nouvelle chronique sur Radio FM+, 91. Animée par Ilem Gouli. À la technique, William Balfour. Une chronique d'information et d'actualité. Nous vous donnons la parole pour mieux connaître vos actions, vos idées et vos propositions. Une chronique soutenue par la Fondation Les Sourires d'Ahmed et le CLIX 34, le Comité de laïcité et de cohésion sociale.